Sabrina, voilà. Alors, bienvenue Sabrina, je ne t'avais pas aperçu, c'est Séverin qui m'a signalé que tu étais là. Plaisir de te voir. Merci, bienvenue. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous visitent. Soyez accueillis dans ce lieu de culte. C'est vrai que c'est un culte un peu particulier, mais j'espère que ça vous convient. En tout cas, on est content de passer ce moment avec vous. Et puis, je vais passer maintenant donc la parole à Emmanuel et puis à Jacques, surtout qui va le présenter. Donc, bienvenue.
Bonjour. C'est vrai que c'est une grande joie ce matin de pouvoir vous présenter Emmanuel, parce que c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ça fait 10 ans que quand je parle, je vous parle. J'ai même parlé dans Marchons Ensemble, que j'avais rencontré il y avait 10 ans. C'était pour moi la première fois que je rencontrais un vrai disciple qui correspondait à la parole de Dieu et qui avait osé me dire, je me demande si tu es chrétien. Alors c'est vrai que c'était une claque, hein, mais c'est un homme tellement plein d'amour que la preuve c'est qu'il est là. Hein. Je ne l'ai pas voulu. Et c'est vrai que son message, qui est le message de la parole de Dieu, a transformé ma vie. Elle est devenue d'une vie chrétienne, j'allais dire, banale. Elle est devenue une vie vraiment authentique de disciple. Et c'est vrai que le présenter, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. En Afrique, il a une mission et puis il s'occupe d'un orphelinat. Il accueille plus de 100 enfants qu'il nourrit chaque jour, qu'il envoie à l'école, qui permet qu'ils aient des soins. Et à part ça, il a toute une équipe des églises maison. Il fait partie aussi de Christian Aid, qui est une mission américaine. Il est adjoint du directeur, c'est-à-dire que le but de cette association, c'est d'aller dans les pays africains et puis voir avec eux les projets qu'ils ont et de pouvoir les aider. Pas toujours financièrement, mais plutôt au niveau de la parole. Voilà, il est marié, il a une petite fille qui a 18 mois, et puis il est d'origine nigérienne, c'est-à-dire qu'il vient du Nigeria, il est anglophone, mais ce matin il va vous parler en français. Alors je précise parce qu'il dit souvent « no hein. », ça veut dire qu'il parle-t-il, ça veut dire « maintenant ». Alors moi j'ai cru qu'il disait « non », alors faites pas comme moi, hein. Il dit pas une vérité, puis après il dit « non ». Il a essayé de changer, mais c'est une habitude qu'il a, puis c'est différent. Alors simplement, il est là pour venir enseigner à Jeunesse en Mission, c'est-à-dire qu'il est toute la semaine prochaine, il sera à Yverdon pour l'école de disciples pour enseigner. Et juste une petite pub, ceux qui ont été touchés, qui aimeraient le réentendre, il sera jeudi soir à partir de 20h à Yverdon, à la salle de la fraternité chrétienne. Voilà, je lui laisse la place. Alors, juste une petite chose technique. Hier, il a oublié ses lunettes chez une des personnes. Alors, c'est moi qui vais lire les versets.
Hein. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Jacques. Et je veux vraiment vous embrasser tous dans le nom de notre Seigneur Jésus et vous exprimer ma joie et ma reconnaissance d'être accepté au milieu de vous ce matin pour partager la vie du Seigneur ensemble. Et il faut dire que je suis déjà très impressionné de la cassure de routine. C'est impressionnant de venir dans une église et pour la première fois de voir des frères et des sœurs qui sont en communion ensemble autour de déjeuner. Et il faut dire que si nous regardons très bien dans la Bible, le fait de manger ensemble n'est pas seulement un acte physique. Derrière cet acte physique, il y a une activité divine, spirituelle qui se passe, qui augmente l'intimité d'esprit et de cœur les uns avec les autres. Et alors, je crois que c'est une partie quand même qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai été tellement impressionné que j'ai demandé à Jacques, mais ça fait combien de temps ils le font? Et bon, et je peux vous dire que c'est vraiment super. Et je suis très béni pour cela. Bon, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que je fasse attention pour ne pas bavarder à côté de ce qu'on doit dire. Ce que Jacques n'a pas dit, c'est que ma femme est d'origine ivoirienne et francophone. Alors, elle m'aide aussi à m'exprimer davantage en français. Bon, les gens disent que je parle trop le français ivoirien, mais je crois que ça va aller. J'aimerais aussi donner peut-être 2 minutes à la jeunesse pour les encourager. Et je ne peux pas non plus tout dire concernant mon témoignage de combien j'ai rencontré le Seigneur très tard, malheureusement, parce que j'aurais souhaité le faire plus tôt, mais je crois encore que c'est plutôt par rapport à d'autres personnes. J'ai rencontré le Seigneur assez tard, à l'âge de 14 ans, d'une manière bouleversante. Très bouleversante. Et alors, l'avantage, c'est quoi? Quand on rencontre le Seigneur quand on est jeune, on a assez de temps pour que le Seigneur bâtisse. Je ne veux pas décourager ceux qui rencontrent le Seigneur après 60 ans. Mais imaginez quelqu'un qui aurait marché avec le Seigneur 60 ans. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui se bâtit. Et chaque jour que nous avons avec Dieu est précieux. Il ne faut pas le gaspiller. On ne doit pas gaspiller notre temps avec le Seigneur. Le temps est très petit. J'ai l'habitude de dire aux gens, bon, ils vont dire que je parle négativement maintenant, mais j'ai l'habitude de dire aux gens, si tu penses que tu as encore 50 ans à vivre, il faut te dire que tu as 25 ans. Parce que les 25 ans qui restent, le reste de 25 ans, tu vas passer à dormir, c'est la nuit. Ah, c'est pas très intéressant, mais excusez-moi, hein. Ça veut dire qu'il faut mieux gérer notre temps. Alors, j'ai passé, à cause de cette rencontre assez radicale avec le Seigneur, j'ai commencé à aussi apprendre à témoigner de sa fidélité et de son salut. Et gloire à Dieu, j'ai eu quand même un petit temps de marche avec le Seigneur. De telle sorte que quand je me lève pour parler de lui, je ne parle pas de théorie. Je parle d'un Dieu que j'ai connu, que j'ai rencontré, avec qui je vis. Alors ce matin, je prie que Dieu nous donne de vivre quelque chose avec lui. Et vous les jeunes, remerciez le Seigneur pour cette grâce que vous avez de connaître le Seigneur à cet âge. Ne dites pas non, j'ai le temps de m'amuser d'abord. Non, non, non. Depuis le jour, à l'âge de 14 ans, quand j'ai rencontré le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais réfléchi une minute, une fois, de rétrograder. Parce qu'avec Dieu, il n'y a que la vie. Le monde n'a rien à nous donner. Le monde est vide. Il n'y a qu'en Dieu qui a la satisfaction de la vie. Et j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une vie agréable de vivre une vie ratée. En Afrique, je me permets de dire des termes assez graves parce que je me sens plus libre, mais je veux changer le mot. Une vie en dehors de Christ, c'est une vie de poubelle. Ça, c'est pour les jeunes. Les gens à l'époque, à l'âge de 14 ans, quand ils voyaient mon engagement avec le Seigneur, ils disaient, le gosse-là est démodé. Parce que je ne suivais pas le train-train de chaque jour. On ne me voyait plus au disco. Mais un jeune de 14 ans, qui ne parle pas de disco, qui ne court pas derrière les jeunes filles, mais il est démodé celui-là. Ou bien qui n'est pas... à l'heure de jour. Mais je ne regrette jamais d'avoir connu le Seigneur. Alléluia. Non, alléluia, il n'est pas connu ici. Hein? Je cause problème? Ok. Bon, écoute, j'essaie d'être aussi intime avec mes bien-aimés que vous êtes. Alors, je parle très, comment on dit, librement, hein? Ok. Now, on va ce matin commencer par une phrase. Et nous allons essayer de prendre Matthieu 16. Ok, Jacques? C'est pas que je suis... Bon, si j'avais une Bible assez... où les mots sont assez gros, les lettres sont grandes, j'aurais peut-être essayé de lire, mais mes yeux ne sont pas aussi abîmés que ça. Hein? Bon, mais c'est vrai que je lis avec les lunettes. On va prendre le verset 13 et peut-être jusqu'à... Puisqu'il faut que je gagne de temps, il va lire et là où nous pouvons arrêter, nous pouvons... Je veux l'arrêter. Merci, allez-y. Ok, now, avant, il faut noter là où vous êtes arrêté. Ok, et on va continuer plus tard. Mais dans ce passage, rapidement, nous voyons une expression et une passion de cœur de Dieu qui s'exprimait encore à travers Jésus-Christ. Et nous croyons à la Trinité, ces trois personnes qui ont le même cœur. Et ce que Dieu, la passion de Dieu devient rapidement tout de suite la passion de Jésus et la passion de l'Esprit. Ce que Christ dit, c'est ce que Dieu dit. Ce que l'Esprit dit, c'est ce que le Père dit. Alors, ils ont les mêmes passions, les mêmes désirs, la même volonté, la même nature. Et ici, nous allons voir ce que Dieu a eu dans son cœur depuis la création ou même avant la création. Il a toujours désiré que l'homme et les hommes sur la terre le connaissent. C'est la passion de cœur de Dieu. C'est ce qui est chaud dans le cœur de Dieu. Si tu te tapes le cœur de Dieu et tu veux savoir ce qui se passe, le battement de son cœur, il a une fardeau. Il désire se faire connaître. Il veut que les gens le découvrent. Il veut que les gens connaissent qui il est. Psaume 67, le verset 1 à 3 dit, verset 1, « Aie pitié de nous. » Et bénis-nous et fais luire ta face sur nous, verset 3, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Combien Dieu désire se faire connaître sur la terre. C'est un désir profond, c'est une passion qui vibre fort dans le cœur de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, après avoir passé un temps avec ses disciples, il les a amenés quelque part. Il a exprimé la même passion. Il dit, mais que dit-on que je suis fils de l'homme? Je veux savoir ce que les hommes disent de moi. Et permettez-moi de dire qu'une révélation charnelle n'a aucun pouvoir pour sauver l'homme. Ils ont commencé à dire, certains disent que tu es Élie ou Jean-Baptiste ou Jérémie ou l'une des prophètes. Et Jésus n'était pas satisfait. Et permettez-moi de dire jusqu'ici, la confession de ces hommes n'est que des confessions d'une révélation humaine. C'est la connaissance qu'ils ont eue de Jésus-Christ humainement. Les musulmans connaissent Jésus-Christ comme prophète. Si vous ne lisez pas le Coran, et d'ailleurs, en passant par en tête, j'étais musulman. À la recherche de Dieu, j'ai passé partout. Mais à l'âge de 14, il a vu. Mais c'est impressionnant, hein? Quand Dieu a ta destinée, même à tout petit comme Moïse, il commence à définir ta trace et ta destinée. À l'âge de 12, 13, j'avais un désir de connaître Dieu. Alors personne n'est petit ici. Et Mohammed connaissait Dieu. Dans le Coran, il dit, on dit même Jésus-Christ, il est le prophète. Quand on prêche aux musulmans, ils disent, mais nous, on croit en Jésus. Je dis, oui, vous croyez en Jésus, mais votre révélation est charnelle. C'est une révélation humaine. C'est bien sûr, d'être prophète fait partie la position de Jésus. Mais jusqu'ici, Jésus n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait de cette réponse. Et pourquoi il n'était pas satisfait? Parce que les hommes ont donné de leur opinion de ce qu'ils pensent que Jésus est. Ou était. Alors Jésus est tourné vers ses disciples. Il leur a dit, mais vous, que dites-vous que je suis fils de l'homme? Et Pierre a pris la parole pour les douze et a dit, toi, Christ, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Et Jésus qui connaissait Dieu et le cœur de Dieu, il a dit, Pierre, tu es heureux, tu es béni. Non, tu sais, ici, il n'y a pas trop de prédicateurs de la prospérité, mais j'ai l'habitude de définir la bénédiction parce qu'il définit la bénédiction comme la possession de biens, de dollars, de richesses. Ça, c'est de poubelle, prédication poubelle. La bénédiction définie par Dieu, c'est un homme, une femme, un jeune homme, un jeune garçon, une jeune fille qui connaît Dieu. Il a dit, tu es béni. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais qui? Mon Père qui est dans les cieux. C'est la révélation divine. C'est la révélation de Dieu, de qui est Jésus, qui a une puissance, qui peut sauver. Et Jésus, quand il a dit, tu es béni, il a commencé à dire quelque chose de très fort. Il dit maintenant, puisque toi, Pierre, tu as reçu de mon Père qui je suis, tu crois que je suis le Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que Dieu cherchait. Il cherche des hommes et des femmes qui vont connaître qui il est. Sa personne, sa nature et son œuvre. Et il a dit, maintenant, je peux continuer à faire ce que je suis venu pour faire. Je veux maintenant, quand vous lisez le reste de l'histoire, il dit, je veux bâtir quoi? N'est-ce pas? Je bâtirai mon église alors. L'église est un groupe de personnes qui ont eu une révélation divine de qui est Jésus-Christ, de qui est Dieu. Pas seulement une révélation de qui est Jésus et son œuvre, mais ils doivent aussi comprendre cette révélation doit affecter leur vie. Cette révélation de qui est Dieu doit être tellement forte et puissante que ta vie entièrement est bouleversée. Et quelque chose s'est passé lorsque le cœur de Pierre a eu contact avec le cœur de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quand ton cœur contacte et s'unisse avec le cœur de Dieu, quand ton cœur capte la révélation du cœur de Dieu, quand ton cœur est frappé par ce qui est dans le cœur de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et tant que ton cœur n'a pas encore devant la révélation de Dieu, rien ne va se passer. La Bible dit que quand il a reçu cette révélation, quelque chose s'est passé. Jésus a dit, toi tu es béni, mais aujourd'hui, même ton nom est changé. Tu seras appelé quoi? Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire Pierre? Un homme qui est ordinaire. Vous savez que dans la Bible, les hommes sont des types de Pierre. Hein? Mais un homme ordinaire est devenu maintenant un Pierre qui sera posé sous Christ pour bâtir son église. Alors la seule révélation qui change un homme pour devenir une pierre vivante, c'est la révélation de qui est Christ et de son œuvre sur la croix. Si on fait partie de l'église et on n'est pas de pierre, on n'a pas encore la révélation de Jésus, il y a un problème. Non, allons un peu plus vite. J'aimerais que nous voyons qu'est-ce qui se passe quand la révélation de Dieu comme ça est reçue, on va sortir d'ici rapidement pour regarder dans 1 Corinthiens le passage très populaire. Quand on dit il faut la révélation de Christ, 1 Corinthiens 1, 18. Après, on va lire le 21. Alors, la prédication de la croix est une puissance. C'est la puissance de Dieu, mais il a dit, c'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne sont pas, qui périssent. Non. J'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu n'a pas deux mots à dire au monde. Il y a des prophètes qui circulent partout. Et qui vient, même dans une église ou bien dans une assemblée où peut-être il y a même peut-être 10 personnes, peut-être 5 personnes qui sont peut-être nées de nouveau. Et il fait une conférence et ramasse tout le monde. Et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, un prophète, il vient et dit, oh Randahasi Mayatahesh. Demain, je voyais dans l'esprit, ta voiture est en route. Non, écoute, cette prophétie, elle n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne va pas passer son temps à prophétiser la voiture sur une personne qui n'est pas sauvée. Il y a une manière de savoir trop vite si quelqu'un parle de la part de Dieu. Tout ce que Dieu a dit pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est que Christ est mort pour toi, ta foi en lui, et à son œuvre va te sauver. Point final. Mais j'aimerais juste me demeurer sur la pensée principale de ce matin, c'est que le passage là a dit quelque chose de très intéressant. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis étonné de voir que les chrétiennes limitent leurs expériences de la croix. Moi aussi, à un certain moment de ma vie, je croyais que le jour où j'ai dit, Jésus, je crois en toi, que tu es mort sur la croix pour moi, tu étais enseveli, tu es ressuscité, bon, je suis sauvé, je croyais que l'œuvre de la croix en ce moment-là était finie. Et j'ai commencé à prêcher la croix aux non-croyants. J'ai dit, hey, écoutez, Jésus est mort sur la croix pour vous. Il faut que vous croyez et vous serez sauvés. Et je prêchais la croix. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que la croix de Jésus-Christ est une folie pour les païens. Mais ceux qui sont sauvés, la croix de Jésus-Christ devient une puissance de Dieu dans leur vie. La croix n'est pas un message seulement pour les païens. Oui. Pour les païens, on doit prêcher le salut par la croix de Jésus-Christ. Mais pour l'Église, c'est la vie de l'Église. Il faut que nous comprenions très bien. Cessons de penser que le message de la croix, c'est pour les gens de dehors. Non, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Dans l'Église, il n'y a qu'une seule puissance qui doit agir. Il n'y a qu'une seule puissance qui doit être en manifestation constante. C'est la puissance de Dieu à travers la croix. Il n'y a pas une autre source à travers laquelle Dieu peut s'exprimer et manifester sa puissance dans cette église si ce n'est pas la puissance de la croix. Je suis convaincu parce que parcourir la Bible, je ne vois pas une autre source. Et quelle est l'œuvre, cette puissance-là, elle fait quoi? On va voir très bien. Et la prédication de la croix étant une puissance pour nous, si ici, tout le monde ici commence à croire et accepte la croix, au-delà de salut, c'est-à-dire, supposons que tout le monde qui est là est sauvé par la croix, gloire à Dieu. Mais si nous acceptons la croix pour la vie, c'est-à-dire, dès qu'on est sauvé maintenant, la croix devient notre vie. Quand nous étions des païens, on reçoit la croix pour être sauvé. Mais quand on est sauvé, la croix est le but pour pour la croix accomplit le but de notre salut. Parce que le salut n'est pas aussi en vain. On est sauvé pour un but. On n'est pas sauvé. Ah oui, c'est fini. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Il faut répondre à cette question-là. Il faut l'accomplir. OK? Alors, cette puissance de la croix est pour l'Église. Et si l'Église veut voir la puissance de Dieu, il faut qu'il revienne où? À la vie de la croix. Il n'y a pas un autre lieu où la puissance de Dieu ou la sagesse de Dieu se manifeste. Non, je vais vous montrer encore quelque chose de très important à partir du verset 21.
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Non. Nous savons que Paul n'a rien prêché d'autre que la croix. Et la Bible, il dit ici que le monde avec toute sa sagesse, le monde avec toute sa sagesse, aide-moi, hein? il faut m'aider avec le temps. Le monde avec toute sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse. Autrement dit, personne ne peut étudier Dieu. Dieu est en dehors d'études. C'est-à-dire, les théologiens d'alors, ils ont essayé d'étudier Dieu. Ils ont étudié, mais la Bible dit que le monde tout entier, les savants, avec toute leur sagesse, n'ont quoi? Point connu Dieu dans sa sagesse. Écoute, il y a deux sagesses. Il y a la sagesse de Dieu, il y a la sagesse des hommes. Dans la sagesse de Dieu, on ne trouvera jamais Dieu. Personne n'est suffisamment intelligent, suffisamment sage pour chercher et découvrir Dieu par sa propre sagesse. C'est ce que la Bible dit, hein? Mais quand personne n'a pu connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de qui? De quoi? De la croix. Autrement dit, la connaissance de Dieu ne se trouve nulle part encore que dans la croix. Il n'y a pas un autre endroit où on peut trouver Dieu. Malheureusement, on n'a pas le temps pour exprimer tout cela. Il n'y a que dans la croix que se trouve la puissance de Dieu. Et j'aimerais rapidement, en terminant, parler de que fait la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est dans l'Église, quand la puissance de Dieu est dans ta vie, qu'est-ce que cette puissance-là fait? Rapidement, en Pierre. Deux Pierres plutôt, je pense. En trois. Il faut comprendre, la prédication de la croix est une puissance. Et la prédication de la croix est la sagesse aussi de Dieu. Et on va voir cette puissance-là, qu'est-ce qu'elle fait?
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui compte.
Sa divine puissance nous a donné quoi?
Tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Très bien. Les deux versets là, le verset 3 et 4. On dit sa divine puissance. Et cette divine puissance-là se trouve où? Dans la croix. C'est cette divine puissance qui est capable de nous rendre semblables à Dieu, de nous donner de participer à la nature et à la vie de Dieu. Il n'y a pas une autre puissance qui peut être trouvée dans l'Église qui peut nous permettre de participer à tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En tant qu'Église, il y a une puissance qui doit être constamment en train d'agir dans l'Église. Il y a une puissance qui doit être en train d'agir dans ta vie. Et cette puissance, c'est la puissance de la croix. Et quelle est l'utilité? Qu'est-ce que fait cette puissance? Elle nous donne de participer à tout. Écoute, la croix, dans la croix se trouve tout.
En dehors de la croix, il n'y a rien. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Cette divine puissance de Dieu nous donne de participer à tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est lui qui connaît la croix. C'est lui qui vit la croix. C'est lui qui a une révélation véritable de la croix de Jésus-Christ. Et qui croit et qui accepte. Il va participer à toute la vie divine de Dieu et à la nature de Dieu. Et il va marcher et devenir de plus en plus semblable à Dieu. Des hommes et des femmes qui connaissent la croix et qui ont la croix, on va voir une transformation constante et grandissante dans leur vie. Alléluia. Et l'Église va être de plus en plus remplie de Dieu. Remplie de Dieu. Rempli de sa présence, rempli de sa connaissance, rempli de son amour, de son caractère, de sa nature. Écoutez, bien-aimé, sa divine puissance nous donne tout. Sa divine puissance à la croix nous donne tout ce qui contribue à la vie de Dieu et à la piété. Piété, c'est nous donne de connaître Dieu et de ressembler à Dieu. Mais comment? Comment? Le jour où le message de la croix est prêché, et je crois que Christ est mort sur la croix pour moi, ça veut dire ma foi ne doit pas se limiter au fait que Christ est mort pour moi. Si Christ est effectivement mort pour moi sur la croix, alors moi aussi je suis mort avec Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier, Éphésiens 1, le verset 4 nous dit que Dieu nous avait mis en Christ avant la fondation du monde. Les gens pensent que c'est après la mort de Jésus-Christ que Dieu nous a mis en lui. Non. Nous étions déjà mis en Christ avant la fondation du monde. Et quand Dieu nous a mis en Christ, c'est-à-dire il a collé notre destinée à la destinée de Christ. La destinée de ma destinée a été liée à la destinée de Christ avant la fondation du monde. Et quand Christ est venu, l'histoire de Christ est devenue mon histoire. La vie de Christ est devenue ma vie. L'expérience de Christ est devenue mon expérience. Alors, quand Christ est parti à la croix, non seulement il est parti pour mourir pour moi, mais j'étais mort avec lui. Lorsqu'il était enseveli, j'étais enseveli avec lui. Lorsqu'il était ressuscité, j'étais ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Voilà comment la croix seule peut nous donner de participer à la vie divine de Dieu. Par ma mort avec lui, mon ensevelissement avec lui, à la vieille nature de péché, du monde et de la chair, je suis ressuscité en nouveauté de vie. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1, on nous dit qu'à la régénération, Jésus-Christ nous a, il nous a régénérés par sa résurrection. Lorsque Christ ressuscité, mon vieil homme était enterré, mon vieil homme de péché et mondain, charnel était enterré, et à la résurrection, c'est une nouvelle vie que Dieu m'a donnée. Voilà comment que la croix pour nous permettre de participer à la vie de Dieu, à la nature de Dieu. Par la mort, on ne peut pas échapper à la mort. Romains 6, 5 dit, si nous sommes unis avec Christ dans sa mort, alors nous serons unis avec lui dans sa résurrection. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de la vie, de la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de la vie victorieuse et glorieuse de Jésus-Christ si nous n'avons pas au préalable été unis avec lui dans sa mort. Il est impossible pour qu'une église manifeste la présence, la gloire, la vie, la nature, l'amour, la gentillesse et la présence de Dieu en dehors de la vie de la croix. Pourtant, Dieu nous attend, bien-aimés. Dieu nous attend. Est-ce que ce matin, je peux vous laisser avec ce mot? Ce salut a un but. Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et 21, je termine là. Je répète encore. Tu peux lire? Juste. Je vais terminer là. Le verset 20 à 21.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous.
Non, encore. Qui doit agir dans l'église? Or, à celui qui peut faire. Non, qui doit faire dans l'église?
Je disais au début, la révélation charnelle ne peut pas faire partie de l'Église. Un homme, la pensée humaine, la sagesse humaine ne peut pas agir dans l'Église. Il n'y a que la révélation de Dieu qui introduit les hommes dans l'Église, qui les fait partie de l'Église, du corps de Dieu. Et sa divine puissance encore nous donne de participer à sa vie. Mais ici, on dit, tant, maintenant en tant qu'Église, qui agit en nous? Or, à celui, par celui qui est... Ok, lis le français.
Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons.
Non. Il dit à celui qui est capable de faire infiniment, par sa puissance, il est capable de faire infiniment au-delà. Now, est-ce que nous voulons voir la manifestation d'une puissance infinie ici? Hein? C'est la croix. C'est Dieu qui agit pour manifester avec sa puissance qui ne coule pas ailleurs qu'à travers l'Esprit à la croix de Jésus. Et s'il y avait le temps, je vais vous montrer pour voir que même le Saint-Esprit est caché dans la croix. C'est en prêchant la croix que le Saint-Esprit jaillit et se manifeste. Mais on n'a pas le temps pour ça. Mais j'aimerais seulement dire, or, à celui capable de faire au milieu de nous, parmi nous, par sa puissance infinie, à lui soit la gloire. Ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, ils peuvent embrasser la croix. Le temps est passé, les gens ont présenté la croix comme une chose misérable. Mais je vous dis, la croix, c'est là où tout se trouve. Il n'y a rien en dehors de la croix. Et je vous embrasse encore et je vous bénisse au nom de Jésus.